Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Bienvenue à tous dans cet espace dédié à l'information économique sur Radio de la Paix. Nous continuerons encore aujourd'hui de parler du processus de création de la monnaie et nous serons encore une fois avec Faustin Onozon, expert en économie, que nous retrouverons dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Avant, vous aurez des explications de quelques termes dans le lexique économique et à ne surtout pas oublier vers la fin de cette émission les tendances de la bourse avec Kwao Brice. Merci de nous suivre.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Une masse monétaire.
La masse monétaire représente, il faut le savoir, la quantité de monnaie en circulation dans un pays ou dans une zone économique donnée.
Produit intérieur brut.
Le produit intérieur brut ou PIB est un indicateur économique qui permet de mesurer les richesses créées dans un pays au cours d'une période donnée, notamment une année. Le plus souvent, le PIB est utilisé pour mesurer la croissance économique d'un pays.
Une zone monétaire.
Une zone monétaire est constituée d'un groupe de pays qui décident, par exemple, d'adopter une monnaie commune et unique, d'observer aussi les mêmes règles monétaires et la même politique monétaire.
L'inflation.
L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et services dans une économie.
Regard sur la gestion économique nationale.
On parle toujours d'économie, précisément de la relation entre la balance des paiements et la création d'une monnaie. Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour.
La semaine passée, nous parlions de souveraineté monétaire. Pour l'économiste, expliquez simplement la souveraineté monétaire, comment on pourra la comprendre.
La souveraineté monétaire, pour moi, c'est celle qui vous permet de mettre sur pied de la monnaie, c'est-à-dire à partir d'une demande intérieure des monnaies. Et cette demande intérieure des monnaies doit être en adéquation avec le solde monétaire de la balance des paiements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il vous faut de la monnaie, j'allais dire externe, constituée des devises. Et c'est par le biais de ces devises-là que vous pouvez donner un sens à votre monnaie. Et comment est-ce qu'on donne un sens à sa monnaie? L'opérateur économique qui va acquérir la monnaie, qui relève de votre masse monétaire en circulation, qui est le fruit de la variation de la production du produit intérieur brut. Dès lors où il y a une variation de cette production, il va sans dire qu'il faut mettre sur pied une masse monétaire en circulation. Alors, une fois que cette monnaie est libérée, mais il y a des opérateurs économiques qui viendront, il y a des ménages qui viendront. Si vous avez un enfant en Europe, vous devez certainement lui envoyer de l'argent, mais ce n'est pas du franc CFA que vous allez lui envoyer. En fonction de votre franc CFA, vous levez ce qu'on appelle une autorisation d'échange au ministère de l'économie et des finances, plus précisément au trésor public. Et une fois que cette autorisation est acceptée, on vous débite votre compte en franc CFA et on le crédite en termes de devises. Donc c'est muni de ces devises-là qu'on peut faire votre transaction. Et si vous ne les avez pas, on ne peut pas faire la transaction. C'est pourquoi il faut absolument que le solde monétaire de la banque des paiements soit en adéquation avec la demande des monnaies intérieures.
Ce que vous dites m'amène à vous demander, hein, c'est vrai. Vous êtes un Africain, citoyen d'un pays africain. D'aucuns peuvent se poser la question. Mais pourquoi toutes nos monnaies doivent converger vers les monnaies occidentales, chinoises? Pourquoi les monnaies africaines ne sont pas une référence aussi? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, techniquement?
Mais ce sont les règles du commerce international. Rien ne vous empêche de faire de votre monnaie une référence. Mais il faut avoir tout simplement une économie solide. Il faut être un grand pays. En économie, quand on dit un grand pays, ce n'est pas par rapport à la superficie. C'est par rapport au solde monétaire de la balance des paiements.
À votre capacité même de créer de la richesse et tout ça.
Exactement. C'est ça, un grand pays. Et si vous voulez que votre monnaie soit un moyen de référence, mais travaillez. Il y a du travail à faire. Il y a tous les compartiments de l'économie qu'il faut développer. Il y a les investissements, il y a la consommation, il y a le commerce extérieur. Il y a tous ces aspects qu'il faut développer en tant que pays. Mais lorsqu'on remplit ce volet-là, lorsqu'on a une balance des opérations courantes qui est largement positive, qui vous permet d'avoir, in fine, un niveau extraordinaire, mais il va sans dire que votre monnaie deviendra tout de suite une monnaie de référence. Mais quand vous n'êtes pas dans ce volet-là, et vous êtes encore en train de chercher certainement à faire des échanges avec tous les pays, et chercher à faire des échanges avec tous les pays, ça veut dire qu'il faut avoir la monnaie des autres pays. Voilà un peu comment ça se passe. Et puis, les différentes productions. Mais si on les a, on n'ira pas les chercher ailleurs. C'est parce qu'on ne les a pas qu'on va les chercher
ailleurs.
Donc, ne faites pas de sa monnaie une monnaie de référence. Qui veut ? C'est le travail que vous faites. C'est la solidité de votre économie. Et la référence, elle se dégage d'elle-même.
La référence se dégage d'elle-même, justement, hein, dans la stratégie de création de monnaie. Pour parler d'histoire des monnaies africaines, il y a deux approches. Certains pays ont décidé de se mettre ensemble, d'où les zones monétaires, et d'autres ont décidé d'aller seuls, créer leur monnaie. Déjà, par rapport à ces approches-là, est-ce que vous avez un mot à dire ?
Oui, il y a la zone CFA qui existe aujourd'hui, qui a même existé avant la zone euro. Mm-hmm. Parce que nous, on a d'abord réussi à gérer l'intégration monétaire avant l'intégration économique. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est dans une intégration économique et monétaire. Mais l'Europe, eux, ça a été d'abord l'intégration économique avant l'intégration monétaire. Et j'ai dit, et je le répète, on n'empêche pas un pays d'avoir sa propre monnaie. Mais ce qu'on peut demander à un pays, s'il veut avoir sa propre monnaie, c'est de faire en sorte que ce pays ait une balance de paiement forte, correcte, et j'allais même dire exceptionnelle. Vous pouvez créer votre monnaie, mais on a toujours besoin d'une solidité. La zone monétaire, c'est quoi ? Lorsque vous avez des difficultés, je prends le cas de l'UEMOA par exemple, on a, si vous voulez, la même balance. Il y a une balance individuelle, mais il y a une balance qui relève de l'UEMOA. Et cette balance-là, lorsque un pays a des difficultés, l'Union peut vous aider.
La solidarité.
Il y a la solidarité. Mais quand vous êtes seul, mais c'est difficile. Et puis la monnaie, c'est un phénomène qui est très complexe. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les taux d'inflation galopants. Oui. Le monde entier a connu des soubresauts. On n'est même pas encore revenu.
Oui, bien sûr.
Et les taux d'inflation sont encore très élevés. Il y a même une perte du pouvoir d'achat. Admettons que vous soyez seul. Mais comment est-ce que vous allez gérer ce phénomène-là? C'est pourquoi il est bon, à mon sens, d'être dans une union. L'union ne vous empêche pas d'être véritablement souverain. La souveraineté au sein de l'union, c'est votre dynamisme. Et si vous êtes dynamique, si vous êtes important au sein de l'union, mais tout le monde va vous respecter, la souveraineté viendra de là. Il y a même une souveraineté dans la souveraineté. Voilà, c'est votre force en matière financière qui vous permet d'être souverain.
Alors, justement, vous le dites, hein, le franc CFA, pour parler de zone, longtemps, cette monnaie a été décriée. C'est vrai, la polémique continue. Le fait d'être arrimé à une monnaie étrangère, notamment l'euro, pour vous, est-ce qu'il est temps, hein, c'est un moment, de pouvoir se désapparenter ?
Quand on appartient à une zone d'échange fixe, on prend un engagement vis-à-vis d'un pays ou alors vis-à-vis d'un groupe de pays. C'est le cas, par exemple, de l'UEMOA. Il y a des engagements à remplir. Personne ne vous oblige à prendre ces engagements. C'est des mécanismes économiques et financiers qui existent. Ce n'est pas l'UEMOA qui les a créés. Ça a été créé comme ça et ça existe de cette manière-là.
Mais quels sont les avantages pour nous ? On peut vous poser la question.
Ils sont nombreux. Lorsque vous êtes, par exemple, arrimé à une monnaie, je prends par exemple le cas du franc CFA qui est arrimé à l'euro. 1 euro égale 655,957 francs CFA. C'est du change qui est fixe, qui ne varie pas. Et dans ce cas bien précis, vous pouvez mettre sur pied une bonne politique économique et financière, pourvu que vous ne sortez pas de l'Europe et que vous mettez sur pied tout ce que vous avez comme commerce international avec les pays membres de l'euro, qui sont des pays importants, des pays développés, où on peut avoir tout ce qu'on veut. Dès lors où on est dans ce périmètre-là, mais on ne peut pas subir des soubresauts, hein, de la monnaie, hein, qui monte, qui descend, à tel enseigne qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a comme réserve d'échange. Voilà un peu l'avantage de la part à une zone d'échange fixe. Mais lorsqu'on est dans une zone d'échange flexible ou variable, là-bas, il n'y a pas d'engagement. C'est au gré des augmentations, des fluctuations monétaires. Et ce que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez même pas vous dire exactement ce que vous avez, puisqu'il y a des fluctuations qui se font. Aujourd'hui, vous pouvez exprimer votre monnaie en termes d'une autre monnaie par rapport à tel ou tel montant. Demain, c'est un autre montant. Donc, vous ne pouvez pas, à mon sens, mettre sur pied une bonne politique économique et financière. C'est comme votre salaire. Aujourd'hui, vous avez 200 000 francs CFA. Et puisque vous êtes dans une zone d'échange flexible, vous pouvez avoir cette chance-là, le mois prochain, d'avoir 250 000. Ou alors d'avoir 100 000 francs CFA. Mais dans ce cadre bien précis. Mais quelle politique économique et financière vous pouvez faire vous-même en tant qu'individu?
Mais dans ce cas, pourquoi certains pays choisissent cette approche? On va être concret, un pays voisin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui a une monnaie fluctuante, justement, qui a choisi depuis son indépendance ce type de monnaie, le CEDI, comme on l'appelle, regard sur cette monnaie fluctuante, où il y a le Naira aussi du Nigeria. On note que les pays anglophones aiment bien ce système de fluctuation. Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage aussi à ce niveau?
Ah mais si, il y a des avantages. Mais je disais tantôt que l'avantage dépend de la solidité de votre économie. Quand vous avez une économie qui n'est pas vraiment solide et puis qui traverse au fil des temps beaucoup de difficultés, il serait difficile, à mon sens, hein, de demander à cette économie-là d'être dans une zone d'échange flexible. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on ne sait pas de quoi demain peut être fait. Il y a des avantages. Tout à l'heure, j'ai pris votre salaire. S'il est flexible, il peut augmenter. Mm-hmm. Compte tenu de ce qui se passe dans l'environnement économique et financier. Mais c'est un gain, c'est un avantage.
C'est cela.
Et il peut augmenter plusieurs fois. À vous de saisir cet avantage-là pour voir comment est-ce que vous pouvez le mettre quelque part, pour pouvoir vous en servir, le cas échéant. Comme il peut diminuer au fil des temps, mm-hmm. comme il peut ne pas s'arrêter. Regardez un peu cette augmentation du niveau général des prix qu'on appelle l'inflation. Mais les pays qui ont leur propre monnaie ont un taux d'inflation très élevé.
Oui.
Au moment où nous, on est à 5-6%, ils sont à 40%. 50%. Alors, imaginez un peu votre pouvoir d'achat qui baisse de 50%. Mais vous n'allez plus pouvoir acheter ce que vous pouvez acheter. C'est-à-dire, même pour pouvoir vous nourrir, ce serait difficile. Voilà un peu les problèmes fondamentaux. Encore ça, c'est à l'intérieur. Mais dans le pouvoir d'achat diminue, c'est-à-dire, il faut payer plus pour pouvoir avoir ce que vous recherchez à l'extérieur. Voilà un peu le problème fondamental. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous avez une économie qui est forte, lorsque vous êtes sûr de vos différentes politiques économiques, lorsque vous avez des atouts naturel. Vous avez aussi des atouts intrinsèques qui dépendent de la formation de votre population. Si elle est susceptible de fabriquer des voitures, de fabriquer des portables, en fait, d'entrer dans ce qu'on appelle les NTIC, ou alors d'être suffisamment forte pour vous apporter toute la technologie qu'il faut, mais il va sans dire que vous aurez une économie forte. Dans ce cas précis, pour moi, vous pouvez avoir votre monnaie parce que vous êtes susceptible de soutenir la demande de monnaie intérieure. Mm-hmm. Mais quand vous avez une économie qui fluctue, pas dans le bon sens, mais dans le sens inverse, et qui ne sait vers où partir pour atteindre l'équilibre, lorsque les paramètres macroéconomiques virent au rouge pratiquement chaque mois, et puis vous insistez sur ce fait-là d'avoir une monnaie qui est à vous-même. Mais je me demande bien de quoi demain sera fait.
Ah mais à contrario, hein, ça c'est pour le cas de monnaie fluctuante, mais la monnaie arrimée à une monnaie étrangère pour le cas du CFA, est-ce que indirectement il ne peut pas avoir d'inflation importée lorsque le coût de la vie dans ces pays européens qui sont nos partenaires, nos pays, la zone CFA, risque aussi hein, de subir indirectement. Est-ce que ce n'est pas aussi des inconvénients?
Bien sûr que oui, mais faites la comparaison entre les pays qui ont choisi d'avoir librement leur monnaie et qui sont dans une zone d'échange flexible. Et nous, nous sommes dans une zone d'échange fixe. Allez voir, vous allez constater que ces pays-là ont aujourd'hui un taux d'inflation de plus de 40%. Mais nous, il est vrai qu'on a eu des difficultés à l'image des pays auxquels le franc CFA est arrimé, mais on n'est pas arrivé à ce stade-là. Habituellement, notre taux d'inflation ne dépassait pas 2%, disons même 3%. L'Union est arrivée à un taux qui avoisinait pratiquement les 6%. Mais depuis lors, on est quand même descendu. Voilà, on n'est pas dans une zone où le taux d'inflation atteint 40%. Et je pense que là, c'est un avantage qu'il faut certainement ressortir. Et que l'inflation soit importée ou pas, mais ce n'est pas dans les mêmes proportions que les pays, pas forcément africains, mais des pays qui n'ont pas une économie aussi solide que l'économie des pays développés et qui ont choisi d'aller seuls dans cette aventure économique et financière.
Alors, il y a certains économistes qui rétorquent que les produits de ces zones-là, parce que arrimés à une monnaie étrangère, notamment l'euro, sont deux fois un peu plus chers par rapport aux pays où les monnaies sont fluctuantes. Quel est votre avis là-dessus?
Non, moi, je pense que c'est un choix. Que la monnaie soit fluctuante ou qu'elle ne le soit pas, il y a des avantages et des inconvénients. Mais aujourd'hui, la situation économique actuelle du monde donne raison à certains économistes, ceux qui estiment que être arrimé à une monnaie étrangère serait le meilleur choix.
L'Afrique de l'Ouest, notamment, à un projet, la monnaie de la zone, disons CDAO, déjà le nom est connu, l'ECO, qui est dans un processus de création. Est-ce que pour vous, si on comprend votre analyse, l'avenir des pays africains, c'est l'intégration économique et monétaire aussi?
Oui, c'est les deux. C'est à la fois l'intégration économique et monétaire. L'un ne peut aller
sans l'autre.
Voilà. Et pour ces pays africains qui souhaiteraient certainement créer une monnaie, et je dis que c'est une bonne chose. Parce que je disais, lorsqu'on est dans le cadre d'une union, on se défend mieux en termes de difficultés économiques et financières que lorsqu'on est seul, par exemple. Alors, les pays qui doivent créer une monnaie commune doivent obéir à un principe. D'abord, il faut faire une analyse objective. Est-ce que ces pays-là, pris ensemble, ont une balance des paiements susceptible d'être forte Est-ce que le niveau de la première ligne de la balance des paiements est un niveau qui est cohérent? C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble de toutes les exportations de ces pays-là sont de loin supérieures à l'ensemble de toutes les importations? Voilà un peu. Et est-ce que ces pays-là ont un armement? Parce que de là, on parle au niveau du fret. Et vous savez que le fret et les assurances créent des désagréments importants en matière de gestion des relations financières avec l'étranger. C'est des fonds importants qui vont de l'autre côté, c'est-à-dire dans les autres pays, et qui ont un impact négatif sur la balance des paiements. Ça aussi, c'est un principe qu'il faut, à mon sens, analyser. Avant d'entrer dans l'autre principe, qui relève de la seconde ligne de la balance des paiements, où on parle de la balance des capitaux. Est-ce que ces pays-là même sont à même de développer des capitaux, d'entrer dans le concert des nations? Voilà ce qui est important. C'est tous ces éléments qu'il faut, à mon sens, analyser et voir qu'est-ce qu'on peut retirer.
Sujet fort intéressant, hein. Question qui se pose, faut-il être souverain dans notre monnaie, battre notre propre monnaie? Voilà, vous avez eu l'avis de l'analyste donc des questions économiques et d'intelligence économique, M. Onozon. Merci à vous.
Merci.
Tendance de la bourse.
L'actualité boursière, c'est dans Economia avec donc notre invité spécialiste des questions boursières. Monsieur Kwao, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser toujours à la bourse, mais au métier lié donc à cet univers-là. Justement, dans ce lieu, qui trouve-t-on?
Bon, déjà, je dirais que pour celui qui veut investir, il y a une structure qui fait l'intermédiation entre les investisseurs et le marché financier. C'est à l'intérieur de cette structure-là qu'on va trouver différents métiers. Donc, c'est essentiellement avec elle qu'on va travailler. On appelle ces structures les SGI, sociétés de gestion et d'intermédiation, qui sont installées un peu partout dans la zone, mais qui sont généralement filiales de banques. Je dirais, sans citer de nom, les banques du top 8 ivoirien ont essentiellement toutes des SGI. Ce sont des structures qui sont à côté de la banque chargées d'animer le marché financier, donc de faire l'intermédiation entre vous et la bourse. Donc quand vous rendez dans ces structures, vous êtes accueilli par des conseillers qui essaient de comprendre votre besoin et tout ça, et vous aider à ouvrir les comptes. À part les conseillers, il y a trois types d'acteurs sur lesquels je vais me focaliser. L'analyste financier, le trader et le gestionnaire de portefeuille. Le trader est celui qui va recevoir les ordres de bourse que vous allez formuler pour les introduire sur le marché. Donc, quand on dit marché financier, quand on dit que vous pouvez investir en bourse, vous faites juste des ordres de bourse que vous transmettez à votre SGI. Et à l'intérieur de cette SGI, il y a une personne qui est le trader, qui est chargé d'exécuter ces ordres de bourse sur le marché. Bien sûr, il va chercher à les exécuter à des conditions qui vous sont favorables. Donc, si vous avez demandé, par exemple, à acheter quelque chose à 10 000 francs, qui peut l'obtenir à 9 900, 9 500, ce sera à votre avantage. Vous serez content de votre intermédiaire. Donc, déjà, il y a ce métier-là, trader. À côté du trader, bon, j'explique pêle-mêle comme ça, hein, il y a l'analyste financier. L'analyste financier réfléchit, étudie les différentes valeurs cotées à la bourse et fait des notes qui servent de conseil aux clients de la SGI ou aux gestionnaires de produits de la SGI dont on va parler tout à l'heure. Donc, en tant que client d'une SGI, vous recevrez à des périodicités définies par votre SGI des notes de recherche qui vont vous aider à voir si telle structure mérite que vous investissiez votre argent. Ces notes de recherche sont publiées par des analystes financiers. Donc, on peut dire que l'analyste financier réfléchit pour vous à quelle valeur vous correspond le mieux dans les différentes stratégies d'investissement. Mais ces recherches servent aussi au troisième acteur dont on va parler, le gestionnaire de portefeuille. Vous pouvez investir en bourse vous-même, donc prendre des décisions appuyées par les recherches de l'analyste, gérer vous-même votre portefeuille ou confier votre argent à la SGI, mais plus particulièrement à la gestion de portefeuille à la SGI, c'est-à-dire comme si vous déléguiez à quelqu'un dans la SGI le fait de gérer votre portefeuille pour vous. Cette personne-là s'appelle le gestionnaire de portefeuille.
Portefeuille, c'est quoi?
Les portefeuilles, considérés portefeuilles par exemple, comme le portefeuille réel là, mais qui contiendrait non pas de l'argent mais des titres. Donc ça se présente sous forme de relevé, comme un relevé bancaire, mais au lieu de voir de l'argent, des salaires passés, vous voyez les titres dont vous disposez. Donc vous pouvez gérer vous-même votre portefeuille après avoir reçu la formation pour ou confier la gestion à un personnel de la SGI qu'on appelle gestionnaire de portefeuille.
Vous parliez de titres, c'est quoi les titres?
Les titres sont les produits vendus en bourse. Titres, plus précisément, on dira par exemple actions, on dira obligations. Sur d'autres marchés, on citera aussi les varants, les certificats. Mais pour résumer, on dit sur les marchés marché financier se vendent des titres. Maintenant, à l'intérieur, il y a plusieurs types de titres.
On va revenir sûrement, ne vous inquiétez pas, sur ces explications. Aujourd'hui, on a décidé de nous intéresser au corps de métier qui gravite autour de cette notion de bourse, parce que M. Comé ne peut pas aller directement dans une bourse pour dire « bon, je voudrais acheter une action ». Ça ne se fait pas.
Non, ça ne se fait pas. Pour investir en bourse, vous irez auprès d'une SGI, ouvrez un compte dédié à cette opération qu'on appelle le compte titre. Donc, retenez par exemple, comme le compte bancaire s'ouvre auprès des banques, comme un contrat d'assurance s'ouvre auprès d'une compagnie d'assurance, un compte titre s'ouvre auprès d'une SGI. Donc, quand vous ouvrez votre compte titre, vous êtes amené maintenant à passer des ordres de bourse si vous êtes en gestion libre, comme moi. Donc, votre ordre de bourse, comme je l'ai dit tantôt, est transmis à la SGI et exécuté par le trader.
Voilà, c'est un peu clair, je pense. Voilà un peu les quelques métiers que vous trouvez donc dans cet univers de la bourse. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour mieux comprendre encore le rôle de ces personnes. Allez, on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.